L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors cette semaine, nous sommes encore à Bruxelles avec quelqu'un qui parle bien français, mais qui a un nom d'origine flamande. Donc j'ai essayé de le prononcer, mais je n'y arriverai pas. Donc c'est Frank van der Schot. Toi, tu le prononces comment ?
Frank van der Schot.
Alors ça, c'est pas le plus important. Je suis pas venu avec toi pour apprendre à parler flamand. Je suis venu avec toi pour parler de cet argent qui peut être utilisé ou pas, de l'argent public en particulier, qui peut être utilisé ou pas pour aller vers un modèle, vers une transition, vers une vraie transition et vers un modèle plus vertueux pour l'avenir. C'est ton combat, Franck. Et tu mènes ce combat au niveau d'une association, d'un réseau plutôt d'associations qui s'appelle Counterbalance. Alors c'est quoi Counterbalance?
On est une organisation, comme une ONG, mais on est un réseau, on a des membres un peu partout en Europe. Nos membres, ils ont créé notre organisation il y a 15 ans, parce qu'eux, chacun dans leur côté, ils travaillaient d'une manière ou l'autre sur le rôle de l'investissement public, sur l'impact social, environnemental, etc. Mais ils voyaient aussi qu'au niveau européen, il y a pas mal d'investissements publics européens, et ils se sont dit, on doit se mettre ensemble pour pouvoir travailler sur cet investissement public et plus précisément la Banque d'investissement européenne, qui est en fait une banque publique qui est détenue par tous les États membres de l'Union européenne et qui joue un assez grand et un rôle plus grand qu'avant dans la politique économique européenne.
On ne connaît pas ce rôle, même en France, la Caisse des dépôts et consignations qui existe, les gens ne la connaissent pas vraiment, ne savent pas à quoi ça sert, comment ça fonctionne, comment elle fonctionne. Elle est alimentée par de l'argent qui vient des États, chaque État verse au prorata de sa richesse dans cette banque et permet des investissements qui sont fixés par qui, par quoi et vers qui.
Déjà, c'est assez normal que les gens ne vont pas la connaître parce que ce n'est pas une banque où nous tous, on peut être clients, ce n'est pas une banque de dépôt. Et en fait, du coup, c'est une banque qui, oui, chaque État membre, pour rattacher justement de leur taille, de leur économie et la population, ils ont une partie des actions de la banque. Et sinon, pour le reste, cette banque, elle va emprunter sur les marchés financiers, du coup, chez les fonds de pension et les autres fonds d'investissement, etc. Et avec cet argent, ils vont donner des crédits. La Banque d'investissement européenne donne maintenant plus ou moins 100 milliards d'euros de crédit par an. Et elle investit beaucoup dans des projets d'infrastructure.
Alors, ce sont des crédits qu'elle fait ou c'est de l'argent qu'elle donne sous forme de subvention ?
Non, ce sont des crédits. Ce sont des crédits, principalement des crédits. Il y a aussi des vrais investissements, du coup, qu'elle achète des parts des entreprises. Et il y a aussi plus soutien technique, etc. pour certains projets.
Comme le fait une banque, avant de prêter de l'argent, elle va dire « votre projet n'est pas rentable, révisez-le, c'est mieux comme ça ».
Oui, mais il y a aussi un programme de donner des soutiens techniques à certains projets pour aider des initiateurs de projets pour que la qualité du projet augmente ou la rentabilité, etc. Mais d'abord, je veux donner un peu plus d'exemples. Du coup, ça peut être des infrastructures d'énergie pour faire avant elle faisait beaucoup d'infrastructures d'énergie fossile. Maintenant, elle a arrêté de faire les projets purs fossiles, mais il reste et du coup maintenant c'est beaucoup de renouvelables, etc. Mais aussi beaucoup de infrastructures de transport, des chemins de fer, des bus, mais aussi des routes et jusqu'à un certain point aussi encore un tout petit peu des aéroports. Et puis, il y a aussi des aides pour des entreprises qui font de l'innovation technologique, etc. Digitalisation, ça devient aussi un assez grand secteur.
Ah, donc, elle aide aussi le privé. Elle n'aide pas que des collectivités ou des États qui veulent investir dans ce genre d'infrastructure. Elle aide aussi du privé.
La moitié de leurs investissements vont vers des entreprises privées d'une manière ou l'autre. On a regardé, il y a un an, on a fait une petite recherche où on a regardé, genre, parmi les multinationales qui ont reçu le plus de crédits d'eux. Et les crédits d'une banque publique, c'est intéressant parce que c'est pas vraiment un acteur de marché. Comme c'est une banque publique qui est soutenue par tous les États membres, elle est vue comme très sûre par les investisseurs.
Et les taux d'intérêt sont peut-être plus bas, je sais.
Oui, ils sont très bas. Et c'est peut-être un sujet qu'en France, vous connaissez maintenant, parce que comme il n'y a pas de gouvernement, etc., les investisseurs, ils n'ont plus très confiance en France. Et le taux d'intérêt qui augmente, du coup, la BEI a un taux très, très favorable. Elle a le taux le plus favorable possible qui existe. Et du coup, ça lui permet de donner des crédits à très long terme, à des conditions favorables, mieux que le marché. Quand elle soutient une entreprise privée, c'est très curieux parce que, évidemment, nous, on ne dit pas qu'elle ne peut pas faire des projets avec une entreprise privée, mais nous, on dit finance les acteurs qui en ont le plus besoin et qui ont le moins de ressources disponibles eux-mêmes pour faire des projets dont on a réellement besoin et utilise les ressources favorables de l'investissement public pour faire en sorte qu'on peut faire les projets qui bénéficient le plus au niveau environnemental et social, parce que le marché va moins le faire, parce que les acteurs de marché ils vont regarder comment ils peuvent faire le plus de profit possible sur court terme.
Donc ça, c'est ton rôle. Là, on rentre un petit peu dans ton rôle où tu vas aller essayer d'influer, de faire pression. Comment pour que ces banques publiques aillent vers des projets plus vertueux?
Oui, tout à fait. Et ça consiste à... tout d'abord, il faut l'information. Et il y a beaucoup de manque de transparence. Et du coup, la première chose qu'on essaye de faire, c'est vraiment de regarder quel type de projet est financé et c'est quoi l'impact de ces projets, social, environnemental. La transition juste, c'est un peu notre focus. Et ensuite, on va aussi regarder c'est quoi les politiques d'investissement de la banque. Qu'est-ce que la banque dit qu'elle va faire? C'est quoi sa priorité?
Et en général, là, les banques publiques, elles disent plutôt qu'elles vont justement vers du social, vers de l'environnemental. C'est le cas aussi avec cette banque européenne?
Jusqu'à un certain point, oui. Du coup, un truc que la banque d'investissement européenne a fait, elle a décidé ça en 2019, en plein mouvement climat, etc., c'est qu'elle a arrêté de financer les projets d'énergie fossile pure. Après, il y a plein de trucs sur ce qu'on appelle les fausses solutions, la capture de carbone, etc. Ça, elle est toujours ouverte à financer ça. Il y a plein d'autres trucs, mais on rentre...
C'est une vision de certains de la lutte contre le réchauffement climatique. Je suppose qu'il y a des lobbies assez puissants à Bruxelles, ici, pour essayer d'influer, pour dire « c'est la solution pour sauver le climat ».
Effectivement. Et là, je peux rebondir sur un point que je voulais faire tout à l'heure. On a regardé, il y a un an, parmi les plus grandes multinationales qui ont reçu le plus de crédits de la BEI les dernières 5 ans, je pense. Et on a vu, en fait, qu'une sélection de 7 entreprises dans différents secteurs qu'on a regardé, qu'en fait, ils ont reçu 10 milliards de crédits de la BEI. Du coup, c'est des crédits avec des taux vraiment favorables. Et ces entreprises, ensemble, ils ont fait 100 milliards de profits pendant cette même période. Et je crois que 40%, là, ça serait à vérifier, mais une vraiment bonne grande partie a été versée vers les actionnaires. Et du coup, ça pour nous, c'est une première chose, c'est que nous on dit, si on va utiliser de l'argent public pour aider les entreprises, non seulement, déjà le premier truc, c'est le type de projet doit vraiment être, ça doit être prouvé que l'impact environnemental, elle est positif, que le projet va être fait d'une manière avec des effets sociaux aussi positifs. Mais après ça, on doit regarder l'entreprise même et l'entreprise qui fait des milliards de profits et qui verse des milliards de dividendes à ses actionnaires, elle peut financer ses projets elle-même. Elle n'a pas besoin de soutien public.
Et on peut garder, comme tu le disais tout à l'heure, cet argent, ces crédits pour des entreprises qui ont du mal à lever des fonds via les banques traditionnelles, puisque ce serait vers des projets moins juteux.
Oui, et du coup, tu parlais de lobby, mais il y a des conflits d'intérêts aussi. On a vu par exemple qu'en fait, dans le management... Les 6 des 10 derniers managers, membres du comité de management, c'est eux qui signent des crédits, qui ont changé de poste. Ils sont allés vers une entreprise qui est un client important de la banque. Et un exemple que nous, on utilise souvent, c'est une entreprise énergétique espagnole, Iberdrola, qui reçoit plus ou moins 1 milliard de crédits au moins par an de la banque. Et la personne aussi espagnole qui était dans le management de la Banque d'investissement européenne, qui a signé pas mal de crédits pour cette entreprise, bah, elle a quitté son poste et elle est allée dans le comité de direction de Iberdrola même. Et ce genre de conflits d'intérêts, ils sont là. Et tout ça se passe avec l'argent public, qui est tous de l'argent qui, en fait, nous appartient parce que finalement, ça vient des impôts qui sont seulement là parce que nous, on a travaillé pour.
Avec le vent, je prends le soleil comme mon amant. Avec les nuages, je danse le French cancan. Mais le vendredi, le tango samba. Hier, c'était le passé. Aujourd'hui la vérité. Hier c'était le passé. Aujourd'hui la vérité. Embrasse le passé. Elle n'existe plus. La vie aujourd'hui est le plus important. Hier c'était le passé. Aujourd'hui la vérité. Hier, c'était le passé. Aujourd'hui, la vérité. Oh. Embrasse le passé. Il n'existe plus. C'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité.
Alors nous sommes de retour avec Frank Van der Schoot pour Counterbalance, donc ce réseau d'associations à Bruxelles qui se battent pour que l'argent public qui alimente la Banque d'investissement européenne aille vers des crédits, vers des projets les plus vertueux d'un point de vue social et environnemental. Franck, on a vu avec toi que votre travail, c'était celui de connaître l'état des lieux, de connaître un petit peu les conflits d'intérêts qu'il pouvait y avoir. Tu en as dénoncé un, de voir vers où va l'argent. Mais vous, comment, j'ai vu votre bureau il y a 2 minutes, vous êtes 4. Vous, avec vos petits moyens, comment vous arrivez à faire peser les choses? Comment vous arrivez à éventuellement essayer de réorienter les choses vers une transition plus juste?
Les lobbies, ils représentent l'argent et ils essayent de rester en cachette. Nous, on n'a pas beaucoup d'argent et justement, on essaye avec nos 4 têtes qu'on est d'être le plus visible et de montrer l'information, de montrer ce qui se passe dans cette bulle européenne qui est très dense. Moi, je pense que plein de gens comprennent de manière assez générale ce qui se passe, mais pour savoir précisément ce qui se passe, c'est très dense, c'est difficile à comprendre. Et c'est ça que nous, on essaye de faire, de voir qu'est-ce qui se passe réellement, où va cet argent réellement, c'est quoi le réel impact social, environnemental de cet argent, qui en profite et qui ne peut pas bénéficier ou pas suffisamment de cet argent. Et oui, on fait de la recherche.
Et rien que ça, ça leur fait peur.
Ça dépend, ça dépend, pas automatiquement. Une première chose qu'on fait, c'est d'avoir de l'information spécifique, concrète. Il y a le travail un peu plaidoyer de base, que c'est d'être en contact avec des gens de la banque même, le Parlement européen, qui n'a pas énormément de choses à dire, mais bon, On essaye de faire monter la sauce un petit peu.
Pourquoi tu me dis que le Parlement n'a pas grand-chose, tu as dit, n'a pas grand-chose à dire ?
Et le Parlement européen, la seule chose qu'elle fait réellement sur les activités de cette banque, c'est de faire un rapport sur ses activités une fois par an, mais que ce n'est pas contraignant. Si le Parlement dit, on aimerait bien que vous investissiez plus dans le social, et après la banque décide de ne pas faire ça, c'est pas grave. Pour les procédures légales, c'est pas très grave. Tant que suffisamment des gens des pays, des États membres qui sont dans l'Assemblée générale de la banque, qu'eux sont d'accord avec ça, rien ne leur empêche de le faire.
Alors c'est la Commission qui a un peu plus de. Qui a un peu plus de poids sur elle ?
La commission, elle est dans le comité de direction de la banque. Et du coup, cette comité, il doit approuver les projets, etc. Mais elle a seulement une voix. Ils ont le droit de revoir des projets. La Banque d'investissement européenne, elle aussi liée dans certains programmes d'investissement plus larges. Ça s'appelle InvestEU, c'est pour soutenir la transition écologique. Et puis un programme pour l'aide au développement, mais qui est devenu plus un programme d'investissement géopolitique en dehors de l'Europe. Et là, la banque va pouvoir utiliser de l'argent aussi qui vient vraiment du budget européen et qui va aider, cet argent va aider à rendre les crédits que la banque donne encore plus favorables. Et là, oui, là, la Commission a vraiment, on peut dire oui ou non. Et c'est quand même une bonne partie des activités de la banque, mais... On n'a pas non plus vraiment tellement de choses à dire. Et là aussi, il y a une vraie déficit démocratique de cette banque. Il n'y a pas de mécanisme fort où, que ce soit le Parlement européen ou le Parlement national ou la société civile, a réellement un mot à dire à comment on va utiliser cet argent public.
Comment vous faites, vous, avec vos quatre trucs, pour peser ? C'est-à-dire, au-delà de dénoncer, comment à un moment vous allez pouvoir essayer d'influer et de changer les choses ?
En fait, nous, on essaie de faire la même chose que, comme je t'avais dit tout à l'heure, avant qu'on a commencé, j'ai travaillé longtemps sur les banques commerciales. Après, et là, évidemment, on n'a pas d'illusion, c'est pas démocratique du tout. Et là, ce que tu dois faire, c'est que tu essayes d'avoir de l'information qui dérange et tu essayes de créer un scandale autour. Et en gros, sur une autre échelle, même si on vise peut-être un peu plus sur parler aussi avec les décideurs politiques, c'est la même chose qu'on essaye de faire, et c'est pour ça que l'autre aspect que nous, on essaye de dans nos activités, c'est de divulguer l'information. Pour ça aussi que c'est vraiment très chouette que tu as proposé de parler, parce que ça nous permet de parler à un autre public, de parler aux gens qui sont réellement impactés, que c'est avec leur argent finalement... que ces investissements sont faits, mais ils ne sont pas vraiment consultés. Et de rendre cette question plus publique, de créer plus de pression politique autour, ça, c'est important. Et du coup, nous, on va aussi essayer de se mettre ensemble avec des autres associations, avec des syndicats, etc., pour essayer de créer des collaborations.
Oui, et puis vous partagez votre information avec d'autres gens qui font du plaidoyer, c'est-à-dire... À Bruxelles, on dit qu'il y a des gens qui font du lobbyisme. Ça, c'est ceux qui ont de l'argent. Et vous, c'est plutôt du plaidoyer. Et donc, vous allez aller vers d'autres gens qui font du plaidoyer comme vous pour qu'eux aussi intègrent vos données, en tout cas une synthèse, et puissent aller porter ce message-là ailleurs. C'est ça ?
Ça, c'est la question de rapport de force. Dans le plaidoyer, autour de la table, tu pèses ce que tu pèses, ce que tu représentes en dehors de la table. Et du coup, oui, le plaidoyer, mais le plaidoyer, ça a du sens si le sujet vit dans la société. Et du coup, la collaboration qu'on fait avec des autres associations, c'est pas juste pour faire plus de plaidoyer, c'est aussi pour renforcer le message et le groupe qui dit non, ce sujet est très important. Et pour la plupart des gens, l'aspect juste de ce que la Banque d'investissement européenne va faire, c'est pas dans le message global, mais nous, on veut s'insérer à des mouvements qui travaillent sur les questions plus en général plus larges, avec notre avec notre axe spécifique. L'argent a toujours été au pouvoir, mais on voit un durcissement. Et le rôle de l'investissement public devient très important parce que comme l'argent est plus directement au pouvoir, elle veut aussi direct avoir plus de manière plus directe accès à l'argent.
Et c'est ça qui est fou, parce que on vend partout, en fait, je crois que c'est européen, on nous vend, bon, alors il faut absolument faire les grands traités qui sont pas très à l'avantage en général des économies locales, c'est ça qui est assez étonnant par ailleurs, mais on nous dit c'est la crise, c'est l'austérité, il n'y a pas d'argent, mais en fait il y en a plein d'argent.
Ben oui, il y a plein d'argent public. Et ça se voit, si on regarde seulement les dernières 15 ans, plus ou moins. Quand les banques tombent en faillite, les milliards, on les trouve direct.
Pendant le Covid, pour les entreprises françaises, il y a eu de l'argent direct.
Oui. Pendant le Covid aussi. Et entre-temps, pendant la crise euro, on a fait l'austérité. On a fait à fond l'austérité. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Jusqu'au moment que la Banque Centrale Européenne a dit « Ok, c'est bon, on ouvre le robinet et on a imprimé des milliers de milliards d'euros pour renflouer dans les marchés financiers. » Et maintenant, en fait, de nouveau, sur une échelle un peu plus petite, pour financer la guerre, de nouveau, genre, c'est l'austérité partout, mais pour financer la guerre, là, il n'y a pas de souci. Pour ça, ils vont trouver de l'argent. Et ça veut dire que l'argent, elle est là. S'il y a une volonté politique d'investir dans ce qui nous menace réellement, le changement climatique, dans ce qui crée vraiment des problèmes structurels dans notre société, l'inégalité, la pauvreté, etc., on pourrait financer ça. C'est pas possible. C'est une question de volonté politique. Mais s'il y a une concentration de richesses, c'est elle qui gouverne, bah ça rend les choses plus compliquées. Si eux, ils veulent rien céder, c'est difficile d'avancer. C'est à ce niveau-là que ça doit bouger. Et voilà. Et pour nous, pour ça que c'est très important de travailler sur cet axe d'investissement public. Parce que nous, on dit vraiment, celui qui a accès ou qui décide vers où va l'argent public. Parce que l'argent public, c'est de l'argent qui ne doit pas forcément faire un profit. Et c'est ça qui est important pour les choses dont on a réellement...
Mais il peut changer le monde et il peut sauver l'économie aussi.
Oui. Et l'investissement public avec des crédits, ce qu'une banque comme la Banque d'investissement européenne fait, c'est quelque chose de très spécifique. On ne va pas avec un crédit financer une opération qui va faire de la perte de toute façon. Ça va pas, avec ça, tu ne vas pas payer les salaires d'une école de fonctionnaires, par exemple. Pour ça, il faut de l'argent du contribuable qui le finance structurellement. Mais pour faire... des infrastructures, pour faire des bâtiments, pour construire une nouvelle école, pour faire des routes, pour faire des chemins de fer, pour faire de l'énergie renouvelable, etc. Pour ça, ce sont des trucs qui peuvent être remboursés sur le long terme. Du coup, nous, on dit des projets avec une viabilité économique. Je ne sais pas si ça se comprend en français. Sur le long terme. Pour ça, les crédits publics sont très bien. Et nous, on définit trois secteurs super importants. Il y a plus que ça, mais trois secteurs que nous, on dit qu'ils sont super importants. C'est le logement, l'énergie et le transport. Parce que ce sont trois secteurs qui sont très importants pour la décarbonation. Ce sont parmi les plus grandes sources des émissions fossiles, de CO2.
En plus, souvent, ils touchent les plus pauvres. C'est-à-dire que c'est la convergence de la transition et du social, puisque les logements, les passoires thermiques coûtent cher à la fois à la planète et à celui qui y habite. Les transports, quand il n'y en a pas, ça coûte cher aussi de devoir avoir une voiture si on n'a pas de transport en commun. Et le premier, c'était
Logement, énergie et transport. Et du coup, chacun de ces trois services constitue un besoin de base pour chaque personne, pour chaque ménage. Et dans la crise de coût de vie, de ce qu'on a vu les dernières quelques années, on a vu que ces coûts, ils ont augmenté énormément, surtout le logement. En fait, nous, on dit que maintenant, l'investissement public, l'argent public qui a la capacité d'investir sans prioriser le profit, on doit les investir dans ces secteurs, mais d'une manière qu'à la fois l'industrie de base derrière, qu'elle va être décarbonée, mais aussi pour que les logements qu'elle crée ou qu'elle va rénover, ou l'énergie qu'elle va produire et distribuer, ou le transport qu'elle va créer, que ça soit durable, hein, de manière environnementale, mais aussi avec un accès social, que tout le monde a le max accès possible à ça. Nous, on appelle ça les services publics verts. On appelle ça. Et je vais donner un exemple. On prend par exemple dans le transport, la voiture. Mais beaucoup de soutien public européen va maintenant, d'un côté, pour financer au nom du développement dans les pays du Sud, en Afrique, Amérique latine, etc., l'extraction de matières premières critiques comme le cobalt, lithium, etc., pour les voitures électriques. Mais à la fois ici, une fois qu'on est en Europe, même s'il y a aussi des projets miniers en Europe, mais il y en a moins, avec ça, on va soutenir des projets de production de batteries vont fournir des batteries qui sont liées à des entreprises automobiles que eux, ça ne leur intéresse pas. Une transition juste, ça ne leur intéresse pas. Eux, ils veulent produire des voitures électriques quand ça leur arrange. Et en fait, le secteur automobile, de nouveau, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. Les dernières 10 ans, ils se sont fait blinder de pognon qu'ils ont versé à leurs actionnaires. Ça ne leur a pas intéressé de devenir durable, que d'ailleurs, même pour la compétitivité, ce n'était pas bon, parce qu'entre-temps, les Chinois, ils ont été...
Ils ont pris le marché de la voiture pas chère que tout le monde va avoir.
Mais les entreprises automobiles, ils ont quand même utilisé leur pouvoir de lobby au niveau européen pour dire « Oh, on est en crise, il faut que tu vas déréguler toutes les règles environnementales, sociales, etc. que vous avez fait les dernières 5 ans, parce que ça, c'est contraignant. » Il faut que tu nous donnes l'argent public avec moins de restrictions. Et soi-disant, ça doit être pour la compétitivité, etc. Mais ça va aider personne. Oui, ça va aider quelques personnes à s'enrichir.
Et à court terme, des actionnaires, des choses déjà en place, mais on n'est pas sur une transformation nécessaire d'un point de vue social et environnemental pour l'avenir.
Exactement. Et du coup, nous, on dit, par exemple, dans ce secteur-là, prioriser l'investissement dans le secteur public qui va vraiment donner une attention pour offrir des services publics de base à proximité des gens et qui laissent eux définir les projets qui sont le mieux pour les communautés, pour les gens au niveau local. Et si tu vas travailler avec des entreprises privées, bah, il faut que les projets soient vraiment durables et avec un bon impact social, et que les entreprises eux-mêmes investissent leur propre argent disponible pour que toutes leurs opérations deviennent aussi durables. Et c'est ça le levier qu'on doit utiliser, le levier de l'argent public pour ça.
Vers le public.
Exactement.
Qui est sa base. Un mot de la fin ?
Ouais, je crois juste que c'est vraiment important à garder dans nos têtes que l'investissement public et toute cette question, genre une banque, etc., ça a l'air d'être quelque chose de très dense. Mais en fait, tout ça, c'est de l'argent public, c'est de l'argent qui vient de nous. Et démocratiquement, c'est nous qui avons le droit de décider qu'est-ce qui va se passer avec cet argent. Et c'est pas les politiciens, c'est pas les techniciens qui sont là, qui essayent de dominer cette discussion, de nous exclure de cette discussion. Non, on a le plein droit de se dire, de décider qu'est-ce que nous on veut qu'il soit fait avec cet argent pour remplir nos intérêts et les gens le plus faibles dans la société, d'abord parce que c'est eux qui sont pas aidés, qui peuvent pas avancer maintenant.
Qui sont les grands oubliés de cette modernité qui se met en place. Le XXe siècle avait été fait de pas mal d'acquis sociaux et la fin du XXe siècle et le début du XXe siècle ne cessent de les détricoter au profit des plus riches. On aide plutôt les riches et donc ce serait bien que ton combat, que la banque publique d'investissement, c'est ça, banque d'investissement européenne, aille vraiment vers le public et retrouve un sens vertueux. Merci beaucoup Frank Van der Schoot. On rappelle, vous avez un site internet qui est malheureusement en anglais, donc c'est assez difficile pour les francophones purs et durs. Mais si vous cherchez Counterbalance, alors on va vous proposer des traductions, mais il y a un counterbalance.org qui lui vous propose et vous donne accès au dossier de ce réseau d'associations qui essaie de faire aller la finance dans le bon sens. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci beaucoup pour toi aussi, c'était un plaisir de pouvoir parler un peu de notre combat.
l'ours et la carotte, écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.